culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi pour animer cette émission, Marie et Cécile, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Des nus, des momies, des coques de clocher, voilà des univers sans aucun rapport, typiques des cabinets de curiosité. Les trois musées insolites en Anjou nous invitent à découvrir ces objets et des créations contemporaines qui dialoguent entre eux. Sortis de leur sommeil hivernal, ces trois petits bijoux de musée exposent depuis le 5 avril deux artistes réinterprétant la nature pour parler de l'humain. Louise Croquevieille, responsable communication des musées insolites, est avec nous pour ses découvertes à venir. Et tout de suite, nous recevons Hermine Moulin-Comte, spécialiste de la marqueterie de paille à Angers. Le luxe est dans le pré, ou comment un matériau aussi simple que la paille peut-il devenir un produit d'ultra-luxe ? Et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Au fond d'une toute petite rue du centre-ville d'Angers, quelques marches à monter, et là, nous avons découvert l'atelier HMC qui, l'air de rien, fournit des grands noms du luxe français. C'est à vous, Marie.
Non, c'est à moi.
Voilà, vous êtes deux.
C'est mon sujet aujourd'hui. Je vais dire bonjour Hermine Moulin-Comte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un peu pour moi une magicienne, parce que vous transformez de la vulgaire paille en or. Votre spécialité, c'est, on ne connaissait pas du tout avant, c'est la marqueterie de paille. Alors, en quoi la paille est-elle à la fois banale, on la connaît depuis tout le temps, et exceptionnelle ?
Donc la marqueterie de paille est un savoir-faire ancestral qui était anciennement fait par les bagnards. C'est un savoir-faire qui consiste en fait à venir faucher la paille dans les champs, donc les champs qu'on peut voir sur le bord de l'autoroute. Cette paille est donc fauchée, puis on vient retirer l'écorce. Ensuite, on vient l'ouvrir, l'écraser et la coller sur le support que l'on souhaite. Donc aussi bien du bois que du métal, du miroir, peu importe, on s'y adapte.
Alors c'était au départ, vous l'avez dit, un art de bagnard, un art du pauvre, du paysan, du bagnard. Et c'est devenu aujourd'hui un produit de luxe. Alors pourquoi était-ce un art de pauvre au départ ? Question de temps, parce que la matière n'est pas chère ?
Alors, il y avait un peu des deux, parce que la matière n'était pas chère, mais aussi parce que niveau temps, c'est un savoir-faire qui prend énormément de temps à travailler. Et on estimait que du coup, c'était plutôt les pauvres qui avaient le temps, en fait, de le travailler.
Le soir à la veillée,
au
feu de cheminée. Et aujourd'hui, c'est devenu de l'ultra-luxe.
Oui.
Peut-être justement à cause du temps qu'il faut aussi.
Alors, un mix entre le temps, mais aussi parce que c'est un savoir-faire complètement oublié que seule une toute petite poignée d'ateliers savent encore réaliser en France et dans le monde.
Alors justement, expliquez-nous le processus. Donc là, je vois que vous êtes venue en atelier, oui. en studio, pardon, pas en atelier, avec de la paille. Donc vous avez un brin de paille.
Oui.
Il est presque taché, même il est jaune, un peu taché de marron, il est rond.
Effectivement, donc ça c'est de la paille naturelle là que nous avons, donc il est jaune parce que c'est son jaune naturel.
D'accord, et c'est de la paille de quoi ?
C'est de la paille de seigle, alors on peut prendre en soi n'importe quelle paille, mais le mieux c'est de la paille de seigle car c'est la plus résistante et c'est elle en fait qui nous permettra de quand même avancer les mètres carrés plus rapidement.
D'accord. Voilà. Donc, vous prenez votre rond de paille. Qu'est-ce que...
C'est ça. Donc, après, je viens l'ouvrir. Je vous laisse écouter le bruit,
Je viens l'ouvrir.
Très bien. Je viens l'ouvrir, en fait, avec soit des ongles, soit un stylo, soit peu importe quoi.
Ouais.
Donc, je vous laisse écouter ce bruit assez extraordinaire, je trouve.
Excellent, ça grésille.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment un bruit très caractéristique de la paille. Et après, donc une fois qu'elle est bien ouverte, je viens l'aplanir avec, moi j'appelle ça un écrasoir, mais en fait c'est juste une cale en bois, toute simple, contre une autre cale en bois pour venir ensuite l'aplanir, donc petit à petit, et que la paille devienne comme de la nacre.
Ça devient donc un ruban tout plat. Ah ben,
exactement.
On écoute le bruit, allez-y.
Je ne sais pas si... Voilà.
Oui. Ça devient tout plat. Mais alors, la paille, ça semble à première vue assez fragile.
Oui.
C'est fragile ou c'est solide une fois que c'est fixé ?
Plutôt fragile, même si ça, en tout cas la tenue dans le temps est absolument parfaite. Pour vous donner une idée, c'est fragile dans le sens où si quelqu'un vient rayer avec son ongle, bah forcément il y aura la trace. Et c'est comme du tissu, on va dire, parce que c'est teint donc comme un tissu dans l'eau. Et si vous laissez trop longtemps au soleil, enfin pendant des années et des années, un coffret au soleil, forcément, petit à petit, ça peut perdre un peu de sa couleur à cause du soleil.
Oui, mais sinon, parce qu'il faut dire que vous faites des objets en paille couleur naturelle et des objets en paille qui va être teinte. C'est vous qui teignez ?
Je sais pas, je sais la teindre, mais aussi mon agriculteur le fait pour nous aider un peu à gagner du temps.
D'accord, donc la paille, on a vu les objets chez vous, dans votre atelier, la paille elle est brillante, elle est presque nacrée, est-ce qu'elle est vernie ou est-ce que c'est son état naturel ou est-ce que c'est parce que vous la travaillez ?
Alors, un peu des deux dans le sens où elle est naturellement brillante parce que c'est grâce à la silice. La silice, c'est le vernis naturel de la paille qui vient en fait renforcer la paille dans le champ si jamais il pleut ou autre. C'est ce qui fait qu'elle reste debout, à moins d'un déluge bien sûr. Mais sinon, après, en fait, au moment de l'ouvrir et de l'écraser, c'est ça ce qui vient faire ressortir encore plus sa brillance, donc la brillance de la silice, parce qu'on vient la chauffer naturellement.
D'accord. Donc, une fois que vous avez toutes vos bandes, vous préparez un dessin, j'imagine, et vous faites du graphisme, des dessins qui peuvent être représentatifs aussi. Vous allez dans quelle direction ?
Alors, ça dépend. Pour mes propres collections, avec mon équipe, donc on réalise ensemble les designs. Donc, pour ça, je vois avec ma graphiste ce qu'on fait. Moi, je donne la première idée et elle, ensuite, concrétise cela. Mais aussi, généralement, c'est le client en fait, qui vient avec son idée de base ou même leur design complet et on voit pour le réaliser ensemble.
Et alors, vous mettez de la paille, c'est de la marqueterie, donc c'est toujours fixé sur un objet. Sur quel type d'objet ?
Ah, ça peut vraiment être tout. Ça peut être un petit objet comme une boîte à bijoux, comme une boîte pour les montres ou un plateau, mais également un pan de mur entier pour la décoration d'intérieur, une tête de lit ou autre.
Hermine, on a dit que vous travaillez pour le luxe. Quels sont vos clients ?
Alors, en clients, j'ai aussi bien donc des maisons de luxe que des architectes d'intérieur basés aussi bien à New York que l'Italie, Dubaï, un peu la France, mais moins.
C'est trop cher pour les Français ?
En tout cas, curieusement, ils sont plus à l'international et aussi également donc des particuliers.
Et des particuliers qui, là, vont être aussi beaucoup d'étrangers ou des Français qui vous auront connu ?
Eh bien, un entre-deux. Très curieusement, un entre-deux. J'ai beaucoup de particuliers de la France, mais aussi les autres sont situés aussi dans le monde entier.
Alors, vous avez dit que vous avez des maisons de luxe, des maisons de mode notamment, ou des bijoutiers ou des gens comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a cet appétit pour la marqueterie de paille ? C'est nouveau, c'est récent ou ça a toujours été ?
C'est en train de se développer de plus en plus. Alors pourquoi cet appétit ? Je pense qu'il y a surtout deux créneaux majeurs. C'est très écologique. Faut quand même se dire que la seule déjection en fait de CO2 est faite à cause du tracteur, si on peut dire. Mais après, c'est un travail à 100% à la main. Il y a absolument aucune machine. Donc, pour les maisons de luxe, c'est quelque chose où elles font de plus en plus attention à ça. Mais aussi parce que c'est un travail très minutieux et très spectaculaire. Enfin, il faut quand même se dire, c'est de la paille qui devient comme de la nacre. Donc, directement, ça attire.
Oui, c'est très beau. Hein. On a vu des couleurs dans votre atelier, on a vu des dessins géométriques, en étoiles notamment. Effectivement, on se dit pas c'est de la paille, on a du mal à voir, mais il y a effectivement des nuances de couleurs en plus qui sont extrêmement intéressantes. D'où vient la paille ?
Ah, la paille...
Que vous achetez ?
Oui, la paille que j'achète, du coup, elle vient d'un agriculteur en Bourgogne. Voilà.
Vous n'avez qu'un fournisseur ?
Oui, et justement, je suis en train de voir pour en développer. D'ailleurs, si par hasard, il y a des agriculteurs qui nous écoutent, je suis à la recherche, du coup, d'agriculteurs qui font de la paille de seigle.
Et un kilo de la paille de seigle que vous achetez, ça coûte combien ?
C'est à peu près entre 80 et 100 euros le kilo de paille, oui.
Une botte de foin.
Et une meule de foin, du coup, qu'on peut voir dans les champs, qui, elle, n'est pas destinée à la marquerie de paille. Elle, pour le coup, bah, une tonne, c'est, si je ne me trompe pas, en tout cas, de ce que j'ai vu sur Internet, c'est à peu près 100 euros. Donc, la différence est énorme.
C'est le soin qu'on apporte aux brins pour qu'ils arrivent chez vous parfaits,
ah, oui,
aussi.
Ah, bien sûr, il y a un gros travail. Il y a un vrai travail de l'agriculteur derrière. Il faut vraiment venir couper chaque section de croissance, retirer un peu la petite écorce et ensuite bah, nous l'expédier. Donc oui.
Oui, donc il y a un travail. Hermine Moulin-Comte, quel est votre parcours? Comment avez-vous découvert ce métier quand même très original?
Alors, moi j'ai découvert en fait la marqueterie un peu par hasard. Déjà, j'ai fait un bac pro menuiserie à l'âge de 15 ans. Bac pro menuiserie est spécialisé dans l'ébénisterie, beaucoup de stages en des ébénisteries d'art. Et en fait, j'ai vu une première fois un meuble un peu comme ça, mais ça ne m'avait pas vraiment interpellée car la marqueterie était de couleur naturelle. Donc, couleur paille, un peu couleur bois. C'est bien beau, mais c'est pas...
Ça manquait de punch.
C'est ça, il manquait de quelque chose. Donc voilà, bon, je garde ça dans ma tête, mais j'avance. BTS architecture, licence chargée d'affaires dans l'agencement de luxe. Et là, je fais donc mes alternances dans les entreprises spécialisées dans la décoration d'intérieur de luxe. Donc Hermès, Dior, Chanel, enfin j'ai déjà fait un peu toutes les boutiques, si j'ose dire. Et c'est pour un chantier à Hermès, d'Hermès à Manhattan, où j'ai eu la chance en fait d'organiser tout le chantier. Et pour une partie sellerie, il y avait un mur entier, un marqueterie de paille à réaliser. Et donc pendant une semaine, j'ai joué avec le petit échantillon de paille que j'avais sur mon bureau, à le mettre tout le temps au soleil car ça a de vrais reflets comme de la nacre. Donc là, coup de cœur, mais je garde ça dans ma tête. Et les études passent, je vais faire mon mémoire de master et je veux un sujet où c'est la création d'entreprise, mais quelque chose qui me touche. Donc, je n'allais pas dire la menuiserie parce que je savais que si je lançais une entreprise dans la menuiserie, ça allait me coûter au moins 100 000 euros juste pour une machine. Donc, non. En revanche, je me suis souvenue de la marqueterie de paille.
Oui.
Et là, gros coup de cœur, surtout que j'avais déjà eu un gros coup de cœur dans le passé. Je me suis dit, mais c'est parfait pour me démarquer de mes collègues de classe. Et moi, ça me passionne plus que tout. Donc voilà, je lance mon mémoire dessus. Et à la suite de ça, en fait, un meilleur ouvrier de France m'a dit, mais lance ton entreprise maintenant que tu as tout devant toi.
Et vous avez lancé votre entreprise, vous avez des clients dans le luxe et ça a l'air de marcher.
Ah oui, bah là, ça va faire que 6 mois que c'est lancé.
Oui.
C'est une véritable explosion. Des clients qui viennent en fait d'eux-mêmes directement. Donc, soit ils me contactent par l'atelier HMC, enfin sur le site, mais aussi via mon compte Instagram également. Mais plus, je ne sais pas d'ailleurs comment, mais plus via mon site internet.
Le bouche à oreille peut-être. Vous avez démarré seul. Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous vous développez?
Oui, énormément. Là, actuellement, nous sommes 3 à l'atelier. Et pour cet été, il me faudra environ 7 personnes à l'atelier pour suivre les projets. Donc, pour ça, j'ai lancé un système de formation où les personnes se forment et en fonction, les pépites, je leur propose de venir travailler dans mes ateliers.
Qu'est-ce que vous pensez de la formation en France à l'artisanat?
Eh bien, déjà, elle n'est pas du tout mise en avant. Je ne parle même pas encore de la valorisation, là, c'est vraiment juste l'idée d'en parler aux élèves et quasi à zéro. Ou alors, justement, là, on vient sur la valorisation, dès qu'on en parle, ce sera « bon, t'es nul à l'école, donc t'iras là », comme si c'était une voie de garage, alors que pas du tout. C'est plutôt un tremplin, en fait, vers un autre système, en fait, de pensée, de travail, etc.
Et vers des créations de grande qualité, puisque visiblement, en vous écoutant, il y a de la demande pour de la haute qualité.
Ah oui, oui. Bah, c'est effectivement aussi bien des savoir-faire d'exception, mais aussi ça peut être des métalliers ou des charpentiers, etc. Enfin, c'est pas forcément que tourné vers le luxe, mais dans tous les cas, c'est jamais mis en avant ou pas suffisamment.
Revenons à l'artisanat. Paille, enfin la marqueterie de paille, est-ce que c'est quelque chose de français uniquement? Est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde?
Alors c'est principalement français.
C'est une histoire française au départ.
C'est ça. Alors de moi, ce que j'ai pu, c'est assez dur de trouver les sources, mais de ce que j'ai pu trouver, globalement, c'était assez français. Où en fait, donc c'était les bagnards qui faisaient ça dans leur bagne pour que les gardiens puissent les vendre et donc pouvoir en fait payer à manger dans le bagne. Mais également où c'était des religieux qui recouvraient leur Bible de marqueterie de paille. Après, je sais que j'ai déjà vu des Japonais en faire, mais encore une fois, j'ai vu qu'un seul atelier. Et je ne connais pas l'origine plus que ça là-bas.
Très bien. Mais écoutez, on va vous souhaiter bonne chance parce qu'on a été assez bluffés par la beauté de la paille. Dans votre actualité, pour terminer, je crois que vous êtes inscrite au concours des meilleurs ouvriers de France,
oui,
c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Ce sera quand ?
Du coup, j'ai le sujet en juin.
Oui.
Et parce que ça y est, l'inscription est faite, donc sujet en juin. Et dans 3 ans, je reviendrai peut-être ici pour vous dire que je suis
off. Avec plaisir. Bon, on a oublié une chose, c'est de donner les tarifs au mètre carré de la marqueterie de paille, mais on ne va pas le faire parce que ça va décourager nos auditeurs.
D'accord.
Alors, Hermine Moulin-Comte, on peut admirer vos créations sur votre site internet Atelier HMC ou votre page Instagram. Et puis, on écoute une petite pause musicale avec Alyosha Schneider, Feu de paille. Voilà, restez avec nous tout de suite après. Nous retrouvons l'actualité des 3 musées insolites en Anjou.
Mais au matin, dans la grisaille, le vent et la pluie avaient tout emporté. Des fois comme aujourd'hui, il m'arrive d'y penser. C'est un amour comme un feu de paille qui brûle et laisse nos cœurs comme un champ de bataille, tout à l'envers. Et la pluie du matin ne peut plus rien faire pour laver mon chagrin. Et quand par hasard on se croisera dans Paris, on s'étendra la main comme de vieux amis. Je sais pas ce qu'on était, si on peut dire que l'on s'aimait. On s'en reparlera sûrement jamais, mais c'est notre histoire, ça nous est arrivé. On peut ne pas nous croire, mais pas nous l'enlever. C'est un amour comme un feu de paille qui brillait dans la nuit, mais au matin dans la grisaille, le vent et la pluie avaient tout emporté. Des fois comme aujourd'hui, il m'arrive d'y penser.
Et quand Beaufort, Beauger, Parcelles et Pins, c'est à la lisière est du département et il ne faut pas hésiter à s'y rendre. On l'a dit, ce sont des petits musées, mais vraiment des petits bijoux. Ils débordent d'ingéniosité pour mettre en valeur leur collection. Et là, cette fois, c'est à vous, Marie.
Les 3 musées insolites en Anjou font dialoguer les œuvres. Des collections permanentes avec celles d'artistes contemporains durant ces 6 prochains mois. Louise Croquevieille, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes responsable de la communication de ces 3 musées. Le thème commun des expositions semble être la nature. Fragment, c'est le nom de l'expo qui est au musée Joseph Denet et c'est l'artiste Justine Palermo qui est à l'honneur. Alors, quelles œuvres présente-t-il ?
Alors, les
décrivons
œuvres de
un peu.
Justine Palermo, ça va être long. J'espère que vous avez un peu de temps. On a de tout, c'est assez surprenant, c'est un artiste assez touche-à-tout et effectivement la place du végétal est quand même très présente. On a notamment des installations végétales, des végétaux qu'il va glaner, récupérer au fur et à mesure de ses promenades, de ses voyages, mais pas que. On trouve des photographies qu'il va détourner, on trouve du feuillage qu'il va réutiliser et broder. On va trouver plein d'éléments, des objets du quotidien également, qui sont un peu détournés, mais c'est vrai que le végétal revient assez souvent comme un matériau fragile et en même temps très vivant.
Voilà, donc il fait un glanage dans la nature et dans le milieu urbain aussi.
Tout à fait, oui, vraiment, son terrain de jeu, c'est partout, absolument partout. Il va vraiment récupérer plein de choses et c'est assez amusant en parlant avec lui. Il parlait beaucoup de ces éléments, de ces végétaux et pas que, comme des fragments, mais qui sont des fragments aussi de souvenirs, puisqu'en fait, chaque élément a une petite histoire, parce que tel morceau de tissu a été ramené de son voyage quand il était à Bali. Ses galets proviennent d'une balade qu'il a fait sur la mer avec sa femme, donc plein d'éléments au final qui sont récupérés au fur et à mesure de sa vie. Donc c'est plein de fragments de sa vie qu'il va réutiliser, détourner et présenter au musée cette année.
Alors le glanage urbain, comment il le fait? Parce que la nature, on comprend, on a tous été enfants, on a ramassé des trucs. Là, lui, il continue, c'est bien. Et comment ça se concrétise pour lui? Il vous a expliqué ça ou pas?
Il se balade dans la rue et il trouve des choses. C'est vraiment aussi simple que ça. Je pense que lui a vraiment ce regard de quoi que ce soit qui va attirer son œil, son attention, ça va l'intéresser. Donc ça peut
c'est
aller
vrai qu'on
même...
trouve des choses dans la rue.
Exactement, on trouve des choses dans la rue, parfois des meubles, parfois même des détritus. Alors ça paraît un petit peu rebutant comme ça, mais pourtant c'est vrai. Récupérer des objets comme ça, délaissés, un petit peu abîmés par le temps, par les éléments dans la ville, il va les utiliser et les poétiser. Il va rajouter plein d'éléments qui vont en faire comme des objets précieux.
Alors prenons par exemple les photos. C'est vrai qu'il a récupéré des photos. Bon, on supposait qu'il y a ces... Là, c'est du glanage urbain. Et des vieilles photos, des photos qui sont assez conventionnelles. Ça représente un militaire en uniforme, une communiante, si je me souviens bien. C'est des photos anciennes en noir et blanc, très portrait. Et comment est-ce qu'il les retravaille?
Alors, de deux manières assez distinctes. La toute première, c'est qu'il va en fait percer ses photos. Alors pas au hasard, il va reproduire en fait un motif d'oiseau qui se verra uniquement en transparence avec la lumière du jour. Et donc en regardant comme ça ces photos, on ne voit que la photo, on voit que cette personne effectivement en costume, cette réunion de famille un peu austère. Et puis avec la lumière du jour, on voit apparaître un oiseau en vol, une tête d'oiseau, une aile. Et en fait tout ça vient ajouter une couche de sens sur ces photographies. Donc ça c'est la première façon. Et la seconde, c'est d'ajouter des éléments. Alors, c'est des éléments très simples. En fait, il va s'amuser un peu comme un enfant. Et d'ailleurs, c'est même lui qui le dit. Je fais un travail presque enfantin, très naïf, d'ajouter des morceaux de fil à la place des cheveux, de mettre des petites perles sur une robe pour lui rajouter de la couleur. Plein d'éléments qui vont rajouter du volume, de la texture et en même temps créer une sorte de sous-texte à tous ces inconnus qu'on ne connaîtra au final jamais.
Il réinterprète.
Exactement, il réinterprète, il donne une nouvelle histoire à ces objets.
Aux photos et aux objets. Louise Croquevieille, vous parlez du travail de Justine Palermo en le qualifiant d'onirique. Pourquoi?
Parce qu'il y a un côté très rêveur à son travail, mais c'est très, très ancré aussi dans des croyances. En fait, ses voyages l'ont beaucoup porté. Vers des réflexions un peu plus spirituelles. Il parle d'ailleurs de son exposition comme une exposition méditative. On se laisse porter par ses voyages, par ses éléments, ses fragments d'objets qui sont disposés partout dans le musée. Et ça donne comme ça une espèce d'atmosphère très vaporeuse, un peu rêveuse. On se laisse transporter par l'univers de Justine Palermo.
Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots de cet artiste qui vit à côté d'Angers?
Exactement, donc c'est un artiste qui est basé à La Poissonnière depuis une douzaine d'années. Il est américain, il vient de Chicago. Il a fait ses études à Chicago, il était danseur, donc il a un parcours au final assez éclectique, assez particulier aussi, puisqu'il n'a pas de formation d'artiste. Il a fait des études de mécanique au lycée, donc, ce qui donne peut-être le côté bricoleur au final. Et puis voilà, au fur et à mesure de son parcours, il a fait d'autres choses, notamment de la danse, puis aussi...
un créatif.
Un créatif, voilà, c'est un créateur.
Donc 12 ans qu'il vit dans la région angevine et expose régulièrement, hein, j'ai vu ça. Comment est-ce que les œuvres de Justine Palermo dialoguent avec la collection Joseph Denet?
Alors ça va être par le côté, il y a vraiment deux aspects. On peut avoir ce côté collection, puisqu'en fait c'est le cas, hein. Justine Palermo collectionne ses objets et
Il fait une collecte et il collectionne pour pouvoir créer. Ouais.
Exactement.
Il fait des provisions quand il se balade.
C'est ça, et si on reprend l'exemple des photos, il en a une collection assez impressionnante, c'est-à-dire qu'au musée, on en a une petite centaine d'exposés, il en a créé plus de 2000, et il n'en expose que à peu près 1000, celles qu'il trouve les plus jolies, hein, les autres qui sont un peu moches, il les garde de côté, ce sont ses mots, hein, je me permets.
Et le rapport avec Joseph Denet,
une collection,
c'est la collection.
C'est la collection, c'est le fait d'ajouter tous ces éléments les uns les autres qui vont créer une histoire, puisqu'au final, le musée de Joseph Denet, il existe avec des éléments un peu insignifiant si on les distingue les uns des autres, mais ce qui fait le côté exceptionnel de ce musée, ce sont certains éléments qui sont remarquables, certes, mais aussi toute cette collection amassée ici, à un endroit, tous ces objets qui dialoguent les uns avec les autres, ce sont aussi des fragments de vie de Joseph Denet.
Oui, c'est, Joseph Denet est un collectionneur. Il a constitué un cabinet de curiosité.
Exactement.
Voilà le lien. On peut passer à l'autre collection.
Je peux me permettre une question. Bah,
vas-y, Bénédicte.
Et bien justement, ce sont des objets personnels presque. Est-ce qu'il les vend finalement, ces œuvres ?
Alors, il en vend quelques-unes, effectivement. Alors, sa collection de photos, pas forcément. S'il la vend, ce serait en entier. Donc, si vous avez la place d'exposer 1500 photos d'inconnus chez vous, peut-être. Ses grandes feuilles brodées, il les vend, effectivement.
Oui, c'est un artiste, il vide son travail.
Il vide son travail, effectivement. Mais certains objets, là, on a presque 266 objets. Alors, approximativement, parce que c'est difficile de compter le nombre d'œuvres au musée. Mais... certaines ont été créées pour le musée et seront probablement plus jamais réexposées. On a par exemple des installations végétales qui ont été faites uniquement pour le musée.
Oui, dans la cage d'escalier.
D'escalier, on a une grande échelle comme ça qui est au milieu de cet escalier monumental en marbre qui paraît insignifiant. Bon, je ne sais pas si ça peut aller chez quelqu'un. Dans le musée, ça fait sens. Chez quelqu'un, pas forcément. Certaines œuvres sont à vendre et d'autres sont vraiment créées uniquement pour les lieux.
Le thème commun des expositions, c'est la nature, l'utilisation d'éléments naturels pour créer des œuvres d'art. Et dans le cas de François Chailloux, au musée Jules Desbois, avec Présence passagère, des éléments naturels sont mêlés à ses sculptures. Alors, qu'est-ce qu'il représente avec ces sculptures ?
Alors, François Chailloux, pour le coup, c'est un artiste-artiste, entre guillemets. Lui, il a vraiment cette formation...
Une formation classique, ouais.
Voilà, une formation classique.
Il est allé à l'école des Beaux-Arts à Carrare, c'est ça ?
Exactement, il est allé en Italie à l'école des Beaux-Arts, il est allé à Prague, également une formation de Beaux-Arts. C'est un artiste qui a reçu une formation classique de sculpteur. Mmh. Et au fur et à mesure, on va dire, de son apprentissage... Alors, dès le début, avec son apprentissage à Carrare, il travaille le marbre, évidemment, qui est une matière organique presque vivante par sa matière. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'il veut incorporer aussi des éléments végétaux. Et là, notamment, c'est du lichen, du bois, des éléments qu'il va utiliser pour représenter ses portraits, puisque François Chailloux s'intéresse beaucoup au corps, à l'humain. On a beaucoup de fragments de corps, de portraits, d'éléments comme ça représentant le corps humain de manière assez réaliste. Et on a du coup presque un parallèle avec Jules Desbois à ce niveau-là.
Alors, en fait, pour bien expliquer, il représente des visages, presque le buste, c'est en cire, c'est pas du marbre là qui est amené, c'est de la cire.
On a de tout au musée, effectivement, on a également des éléments qui sont en cire. Ouais, ouais.
Alors, c'est en cire, mais c'est pas plein, il y a ce qui est vide est rempli de lichen.
C'est ça.
Est-ce que je me suis bien expliqué ?
Tout à fait, oui.
C'est pas évident d'écrire des œuvres d'art, voilà.
C'est assez particulier, c'est pour ça qu'il faut que
venir.
Nos auditeurs viennent dans les musées, évidemment. Mais effectivement, on a cette œuvre, un de ces triptyques, Osnea Fastigiata, qui est donc un triptyque de trois œuvres, trois portraits. Alors, ce sont des moulages de son propre visage qu'il a réalisé. Effectivement, c'est en cire et on a une sorte d'évolution. Un des portraits est quasiment entièrement en lichen. On ne reconnaît presque pas le visage humain. Un autre est vraiment presque moitié humain. On a des bribes qui nous permettent de reconnaître ce visage. Et un autre, on reconnaît immédiatement le visage, effectivement.
Alors, 25 œuvres sont représentées. C'est deux ans de création. Qui est François Chailloux ? On en a parlé un petit peu.
Alors, c'est un artiste tourangeau. Pour le coup, lui vit et travaille à Tours également, puisqu'il est aussi enseignant aux Beaux-Arts de Tours. Et c'est un artiste qui a pas mal exposé par chez nous, mais aussi sur Paris, dans certaines galeries. Donc c'est voilà, un sculpteur assez prolifique qui est un vrai amoureux de la matière, un vrai technicien aussi de la matière. Qui va utiliser un peu tout, pas uniquement de la sculpture, aussi du moulage, de la fonte, du modelage. C'est aussi un artiste qui est un amoureux de la matière.
Alors, Louis Croquevieille, c'est quoi le dialogue avec Jules Desbois ? La formation classique, on va dire, Jules Desbois est un artiste classique.
C'est ça,
classique,
on a cette
qui a
formation.
Fait les Beaux-Arts de Paris.
Oui, tout à fait. C'est une formation classique qu'on a en commun. Un amour aussi de la représentation du corps, voilà. De la représentation des hommes.
Le corps humain.
Du corps centre, humain, c'est ça. Et de l'homme de manière générale, avec un grand H, vraiment de montrer cette humanité avec fragmentaire, parfois. Mais voilà, de parler quand même de l'humain sous toutes ses formes, on va dire. Même s'il y a beaucoup de portraits chez François Chailloux, il nous parle quand même beaucoup de l'humain. Et en intégrant tous ces éléments végétaux, de son rapport aussi à la nature.
Alors, je reviens vers vous, Louise Croquevieille. Vous avez qualifié son œuvre d'organique. C'est le terme utilisé pour les présenter.
Exactement. Exactement, parce que Alors, ça va aussi beaucoup avec la matière utilisée, mais on a quelque chose d'assez viscéral avec la représentation du corps faite par François Chaillou. Il y a quelque chose d'un peu écorché. Hein, c'est l'utilisation de la matière donne une sensation un peu, voilà, un peu étrange et du coup très proche de nous, très, très viscéral.
Merci Louise Croquevieille.
Je vous en prie.
Donc tous les renseignements sur les musées et les très nombreuses activités autour des expositions sont à retrouver sur le site 3 musées insolites en Anjou ainsi que sur les réseaux sociaux. La prochaine rencontre, la prochaine actualité, ce sera le 17 mai pour la Nuit européenne des musées, des déambulations musicales dès 20h. Merci Louise Croquevieille et puis merci Hermine Moulin-Comte. Merci Marie et Cécile pour cette émission. C'est donc la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci Étienne aussi pour la technique. Et puis retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas de partager notre podcast car la curiosité se déguste sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.